franceinter.fr.
Marcel !
Tout est affaire de chronologie.
Mon Dieu, mais j'oubliais. C'est l'heure.
Un été avec Proust. Une émission de Laura Elmaki.
Tout est affaire de chronologie. Le narrateur d'À la recherche du temps perdu ne manque vraiment pas d'audace en prononçant cette phrase dans le temps retrouvé. On a même l'impression qu'il se moque un peu de nous, car depuis le début du roman que nous lisons, roman qui a justement pour thème le temps, notre héros ne donne aucun indice chronologique, ou quasiment pas. Seule l'affaire Dreyfus et la Première Guerre mondiale viennent ponctuer le récit et le situer dans le mouvement de l'histoire, celui que nous connaissons et qui nous permet d'avoir quelques repères. Mais si l'on regarde l'ensemble de l'ouvrage, il apparaît davantage comme un labyrinthe qui brise nos habitudes de lecture et nous pousse à être doublement attentifs. Un labyrinthe que nous allons explorer ce soir en essayant de ne pas nous y perdre. Que révèle ce désordre apparent de l'écriture? Et surtout, comment Marcel Proust fait-il pour montrer que le temps passe sans même désigner ce temps? Antoine Compagnon nous apportera quelques éléments de réponse puisqu'il nous guide depuis le début de cette semaine sur les routes sinueuses de la recherche.
Vous savez qu'il y a une géométrie plane et une géométrie dans l'espace. Eh bien pour moi, le roman ce n'est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. Cette substance invisible du temps, j'ai tâché de l'isoler, mais pour cela, il fallait que l'expérience pût durer. J'espère qu'à la fin de mon livre, tel petit fait social sans importance, tel mariage entre deux personnes qui, dans le premier volume, appartiennent à des mondes bien différents, indiquera que du temps a passé et prendra cette beauté de certains plombs patinés de Versailles que le temps a engainés dans un tourteau d'émeraude.
Bonsoir Antoine Compagnon.
Bonsoir.
Nous venons juste d'entendre la reconstitution d'une interview donnée par Marcel Proust en novembre 1913, juste après la publication de Du côté de chez Swann, et il parle de cette substance invisible du temps qui l'intéresse et qu'il veut retranscrire. Ce terme invisible est assez intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune date dans ce roman, rien qui ne désigne clairement ce temps, et ça rend d'ailleurs la lecture un peu difficile. Cette absence de chronologie, est-ce que c'est une manière pour Marcel Proust de lutter contre le temps, une manière parmi d'autres?
Je crois qu'on peut d'abord dire que le roman de Proust n'est pas un roman réaliste. Donc, les repères chronologiques sont en effet peu présents. Il faut imaginer que lorsque les lecteurs de 1913 ont pris connaissance de ce livre, ils l'ont au fond assimilé à un roman contemporain. Lorsque nous le lisons aujourd'hui, nous rapprochons sa chronologie de celle de la vie de Proust lui-même, et donc considérons que Du côté de chez Swann se passe dans les années 1890, et puis qu'on avance peu à peu jusqu'à la guerre de 1914. Mais bon, si le roman avait été publié juste avant la guerre, comme il aurait dû, eh bien, la guerre n'aurait pas été intégrée au roman. Donc, au fond, il suit la chronologie de la vie de Proust, mais c'est vrai que Proust n'est pas très attentif, et on a dit qu'il y avait des personnages qui ne vieillissaient pas dans ce roman, comme Françoise, hein, la domestique qui traverse le livre, qui est déjà grand-mère du côté de chez Swann, et qui, dans le temps retrouvé, devrait avoir un âge tout à fait canonique.
À ce propos, Proust parle de ses êtres qui flottent entre les parois du temps, qui n'ont pas d'âge, justement.
Alors, Françoise, c'est le cas. Alors, cela suscite d'ailleurs chez certains lecteurs une irritation à l'égard de Proust relative à la manière dont il traite Françoise. Si Françoise ne vieillit pas pendant 3000 pages et pendant des dizaines d'années, c'est parce que Proust, au fond, a un certain dédain pour la domestique éternelle qui traverse tout le livre. Et c'est vrai que Françoise, à la fois, elle est traitée avec beaucoup d'affection, de tendresse, mais en même temps, comme on traitait les domestiques au début du siècle. Alors que les autres, eh bien, ils vieillissent, ils prennent de l'âge, ils prennent de la bouteille parce qu'ils sont plus individualisés.
Alors sans cette chronologie claire, Proust, le narrateur plutôt, juxtapose les expériences, les souvenirs, les époques même. Il n'y a qu'à regarder la structure du premier tome du côté de chez Swann. Il y a trois époques, Combray, Un amour de Swann, Nom de pays. Et à chaque fois, c'est... Alors, Un amour de Swann, il faut préciser que c'est, ça se passe 15 ans avant Combray. Le temps n'est pas continu, il explose, il est arborescent.
Oui, cela dit, il n'est pas si désordonné que cela. Il faut rassurer les lecteurs. Dans les premières pages de La recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, le narrateur nous dit qu'il explorera donc ses chambres du souvenir, les chambres où il se réveillait dans son enfance, et il présente ses chambres dans le désordre du souvenir, comme elles reviennent au cours d'une nuit d'insomnie. Et puis finalement, l'ordre chronologique sera à peu près suivi, puisque le reste de Combray, la première partie, porte sur la petite enfance, et puis puisque À l'ombre des jeunes filles en fleurs porte sur l'adolescence et qu'on est conduit jusqu'à l'âge adulte du narrateur. Donc au fond, le fil de la chronologie et du vieillissement du héros est suivi, bien qu'on nous ait promis que ce serait le désordre des chambres. Alors il y a cette exception qui est Un amour de Swann, puisqu'après Combray, nous revenons à une époque qui est antérieure à la naissance du héros, qui est celle de l'amour de Swann et d'Odette, dont la fille, Gilberte, sera la contemporaine du héros. Donc tout ça se place bien avant le mariage de Swann, bien avant le mariage des parents du héros lui-même. Alors cette partie, elle est aussi complètement différente, puisqu'elle est à la troisième personne, et qu'elle est finalement beaucoup plus conventionnelle dans son écriture. Elle est probablement moins bouleversante pour les lecteurs d'aujourd'hui, et peut-être même déjà pour les premiers lecteurs, que du Combray lui-même. Combray nous parle de la mémoire, nous parle du héros avec ce
de
corps, de la sensation. C'est un livre qui est assez contemporain de Freud, et il a pénétré chez les lecteurs au fur et à mesure du XXe siècle, en même temps que l'œuvre de Freud. Nous parlons de la sexualité infantile. N'oublions pas qu'il y a des scènes d'onanisme étonnantes dès les premières pages de Combray. C'est pas habituel dans les romans de cette époque, ou c'est même pas habituel dans les romans d'aujourd'hui. Et c'est donc une première partie qui est probablement plus bouleversante et plus troublante qu'Un amour de Swann, qui parle de la passion et de la jalousie, je dirais un peu plus dans la tradition du roman français. Alors bon, c'est très important pour Proust que cette partie, puisque Swann est le modèle de son héros.
Un été avec Proust. Laura El Maki.
Antoine Compagnon, parallèlement à ce temps multiple, il y a aussi un narrateur multiple. Vous en avez parlé, on le connaît enfant, on le quitte adulte, vieillissant. Il y a aussi ces différentes strates du moi.
Oui, il y a une petite chose qu'il faudrait ajouter. Il faut citer un nom, c'est celui de Bergson. Bergson, dont Proust utilise dans cet entretien la référence, parce que en 1913, on ne fait que parler de Bergson. Bergson, c'est le philosophe à la mode, et Proust se réclame de Bergson sans s'en réclamer. Il dit ce que j'ai fait, c'est pas du tout la même chose de Bergson, mais il en profite pour parler de Bergson. Et en effet, avec Bergson, comme avec Proust, comme avec Freud, il y a cette idée de la pluralité et de l'incohérence des mois. Et ça aussi, c'est une idée très forte. Bon, ce n'est pas un roman à thèse, mais Proust a une idée fixe. Et cette idée fixe, c'est celle de l'incohérence du moi mondain, du moi social et du moi profond, du moi créateur, celui avec lequel l'écrivain produit son œuvre. Et au fur et à mesure qu'on entre dans le livre, il y a non seulement ces deux moi, mais de multiples autres couches qui sont introduites dans la mémoire.
Alors le narrateur s'amuse du temps, il en défie les lois, et il donne l'impression d'une certaine confusion de l'écriture, nous en avons déjà un petit peu parlé. Je voudrais revenir avec vous sur la rédaction de l'ouvrage qui attend le narrateur à la fin du temps retrouvé. Ce narrateur qui compare son projet de livre à un patron de robe. Nous écoutons tout de suite cette très belle page qui nous est lue par André Dussolier.
Je pensais plus modestement à mon livre, et changeant à chaque instant de comparaison selon que je me représentais mieux et plus matériellement la besogne à laquelle je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, regardée par Françoise, comme tous les êtres sans prétention qui vivent à côté de nous ont une certaine intuition de nos tâches, je travaillerais auprès d'elle, et presque comme elle. Car, épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirai mon livre. Je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Quand je n'aurai pas auprès de moi toutes mes paperoles, comme disait Françoise, et que me manquerait juste celle dont j'aurais besoin, Françoise comprendrait bien mon énervement, elle qui disait toujours qu'elle ne pouvait pas coudre si elle n'avait pas le numéro de fil et les boutons qu'il fallait. Et puis parce qu'à force de vivre de ma vie, elle s'était fait du travail littéraire une sorte de compréhension instinctive, plus juste que celle de bien des gens intelligents, devinait mon bonheur et respectait mon travail. À force de coller les uns aux autres ces papiers que Françoise appelait mes paperoles, ils se déchiraient ça et là. Au besoin, Françoise ne pourrait-elle pas m'aider à les consolider ? De la même façon qu'elle mettait des pièces aux parties usées de ses robes ou qu'à la fenêtre de la cuisine, en attendant le vitrier comme moi à l'imprimeur, elle collait un morceau de journal à la place d'un carreau cassé. Françoise me dirait, en me montrant mes cahiers rongés comme le bois où l'insecte s'est mis, « C'est tout mité, regardez, c'est malheureux, voilà un bout de page qui n'est plus qu'une dentelle !» Et l'examinant comme un tailleur, « Je ne crois pas que je pourrais la refaire, c'est perdu. C'est dommage, c'est peut-être vos plus belles idées. » Comme on dit à Combray, il n'y a pas de fourreurs qui s'y connaissent aussi bien comme les mythes. Ils se mettent toujours dans les meilleures étoffes.
Antoine Compagnon, en fait, l'écriture, selon Proust, c'est une affaire de couture.
Il y a deux comparaisons, n'oublions pas, la cathédrale et la robe. Donc une comparaison noble, qui est celle de ce monument auquel Proust est très attaché, la cathédrale, et puis cette comparaison qui est plus artisanale. Mais c'est très important tout cela, parce que ça nous montre bien que l'écriture, c'est aussi un métier manuel. Proust écrit dans ses cahiers, il est entouré de cette mémoire dans ses cahiers, il est dans son lit, tout est là autour de lui, il sait où tout se trouve, et il est véritablement un travailleur manuel.
Alors parlez-nous un peu de ces paperoles justement, de ce mécanisme d'écriture.
C'est une écriture, on l'a dit, qui toujours amplifie. Donc dans ses cahiers, Proust écrit sur le côté droit, au recto, puis il fait des additions, il n'écrit jamais sur les pages de gauche, dans le premier jet, puis il fait des additions sur les versos, et puis quand il n'y a plus de blast dans les versos, il écrit dans les marges, en haut et en bas, puis quand il n'y a vraiment plus de place, il commence, dès ses premiers cahiers, à faire des collages. Donc il écrit sur un bout de papier, n'importe quoi, et il écrit, puis il colle ses feuilles. Alors c'est vrai que dans les dactylographies, dans les épreuves, il y a d'immenses paperoles qu'on déplie en accordéon et qui peuvent s'étendre sur plus d'un mètre. Quand j'ai fait l'édition de Sodome et Gomorre, j'avais affaire à la plus longue paperole de toute la recherche du temps perdu et il fallait la dérouler sur la table à la Bibliothèque nationale, elle tombait par terre, c'était impossible de travailler avec. Donc c'est évidemment un très bel objet et je crois qu'il n'y a pas de meilleure illustration de ce qu'est en vérité l'écriture et la création littéraire. Il y a un immense travail investi et je crois que d'abord on ne s'en était pas bien rendu compte parce que Proust on le considérait comme un mondain, donc ce livre s'est écrit au fil de la plume. voilà, ce bavard écrit au fil de la plume. Et non, pas du tout, mais c'est seulement beaucoup plus tard qu'on s'en est rendu compte, quand ces brouillons ont commencé à être publiés dans les années 1950, et je crois que ça a profondément modifié l'image de Proust de comprendre l'épaisseur de l'œuvre, la profondeur de l'œuvre.
Merci beaucoup Antoine Compagnon, et à demain nous parlerons du temps perdu. Sarah Blasco chantait All I Want, un disque choisi ce soir par Djoubaka. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour le quatrième épisode autour de Proust avec Antoine Compagnon.